Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah et
Fulgence Blas.
Comment vas-tu en ce vendredi 13? Quelle belle journée!
Belle journée, non, une journée maussade, Arlette.
Oh, non, oh vendredi 13, allons. Oh. De chance, est-ce que tu as joué au... Non?
Non, je vais jouer ce soir.
Ah bah alors voilà, vas-y, tu as jusqu'à minuit
toi,
pour gagner.
Joues, toi, tu joues même pas.
Pour gagner les millions. Non, mais j'attends que tu partages ton million avec moi. Fulgence, aujourd'hui encore une belle heure d'émission. Tu as une invitée?
Oui, il y a Juju Turenne qui était déjà passé ici pour parler de son livre Mandela, toujours à compte Mandela, qui sera un événement virtuel, bien sûr, le dimanche 15 à 11h, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal.
Oui.
J'espère qu'elle sera avec nous juste après la première pièce musicale pour nous raconter un peu cet événement qu'elle aura le dimanche.
Et bien sûr, on l'attend avec impatience.
Oh, oui.
Et en deuxième demi-heure, donc, on va recevoir la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, qui est résidente en médecine et co-instigatrice de l'initiative La planète s'invite en santé. Parce qu'avec elle, nous allons parler des enjeux de santé qui sont liés au projet de complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay.
C'est costaud, hein?
Costaud. Voilà. On en parle tout à l'heure, restez avec nous. Là, on part en musique avec quoi, Fulgence?
On part en musique tout de suite avec Omaya, Novo, It's All About Love.
Being faithful to the one you love and being true to the one you love.
Be nice to everybody and, you know, they'll do the same thing to you. Be nice to you.
Be open to love. Don't get blinded by love.
Love is my Harley Davidson, American made. Nothing like it in the world.
I'm first in everything.
And love is the truth. Love never lies. Love is not jealous and love is beautiful.
Being faithful to the one you love and being true to the one you love.
Be nice to everybody and, you know, they'll do the same thing to you. Be nice to you.
Be open to love. Don't get blinded by love.
Love is my Harley Davidson, American made.
Thank you.
truth. Love never lies. Love is not jealous. And love is beautiful.
Love is beautiful. C'est Oh Maya, it's all about love. Ça, c'est la vie de certaines personnes que l'artiste a interviewé pour savoir, effectivement. C'est un duo formé depuis 2011, ce groupe-là, Oh Maya. Maya, over by Erolf de Danemark, Copenhague, et puis de Tvetsin Todorov de Sofia, Bulgarie. Sofia, je parlais de Sofia hier avec le tournoi de tennis. Alors, on a déjà notre invité au téléphone, la grande Juju Turenne.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Comment allez-vous?
On va très bien. Et toi, Juju Turenne, l'ami
merci
du vent.
C'est un plaisir.
C'est un plaisir. Et puis, merci à toi, malgré ton emploi du temps chargé.
Oui,
tu dois être prête pour le dimanche. Jojo, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une conteuse, auteure, comédienne qui, dans le cadre d'une lecture publique animée avec trame musicale, bien sûr, le dimanche.
Oui, ça a été changé, la trame musicale, parce qu'on a dû s'adapter avec la formule Facebook Live.
Ok, on va tout en parler. Laisse-moi te présenter un peu d'abord. Pour sécurité. Mais la date n'a pas changé. C'est le dimanche 15 novembre à 11h. Ok, Juju, tu viens de raconter Mandela. Et c'est l'histoire d'un homme fascinant et inspirant, le Sud-Africain Madiba Rohilala Nelson Mandela. Activité pour la jeunesse en français, bien sûr. Vous allez visionner la vidéo en direct facebook.com/blue.blue.met/blue. Live, ou bien le lien du Salon du Livre, salondulivredemontréal.com, événement.com/ Juju Turenne raconte Mandela. Alors, merci d'être avec nous pour quelques minutes. Comment on se sent en quelques jours, à une journée de cet événement?
C'est ce que j'allais dire, on est tout proche.
Oh là là, c'est quelque chose, cette aventure de tout transposer en live.
En virtuel.
Pour moi, d'abord, je suis très excitée de pouvoir faire partie de cette belle aventure du Salon du Livre. Je trouve que il a fallu beaucoup d'audace, de persévérance et de savoir-faire pour rendre cette activité possible. Donc vraiment, bravo à toute la chaîne de créateurs et de techniciens et techniciennes qui ont pu faire ça.
Oui.
Et donc, je suis enthousiaste. Enthousiaste de savoir qu'à l'autre bout de l'écran, il y aura des enfants, même si je vais pas pouvoir les voir, mais je sais que je m'adresse à des gens.
Oui.
Autre que de...
Ils vont te voir.
Avec ma feuille chez moi à la maison, parce que vous savez très bien que nous, les autrices, nous sommes dans un monde hyper isolé, parce que la seule sortie, la seule grande sortie que nous avons pour rencontrer nos lecteurs et lectrices, ce sont les salons. Mmh. Et donc là, on va les rencontrer, mais virtuellement. Donc, fébrile, parce qu'on ne peut pas rendre à l'écran ce qu'on rend en art vivant. Oui. Il s'agira maintenant de rendre le plus vivant possible cette animation, et il faudra se fier sur les mots, puisque les mots, eux, ils sont là.
Oui.
Les mots, ils sont là, ils sont dans le livre, ils sont déjà écrits.
Il y aura peut-être encore plus de monde qui vont regarder que ceux qui auraient pu rentrer et venir au salon.
Oui, peut-être.
Il y a aussi cet espace-là.
Comme c'est ça, c'est en ligne, ça devient un événement international.
Oui, c'est vrai, positive. On rencontre de nouveaux lecteurs, lectrices aussi.
C'est ça.
Parce que on est allé chercher une clientèle plus large, mais aussi venant d'autres horizons.
Oui.
J'ai hâte. Ça a été compliqué parce que ça devait être autre chose. Et là, en faisant la formule en direct Facebook, je me prépare le livre. Qu'est-ce que je vais lire comme extrait?
Rendre
ça un peu sympathique.
Oh, tu as toujours su bien le faire. Hein?
Oh là là, avec les lives, c'est toute une aventure.
C'est ton premier événement live concernant ce livre, ou bien est-ce que tu as déjà fait d'autres événements live en dehors de ça?
Je n'ai pas fait beaucoup de lives avec Mandela.
Oui.
Mais j'ai fait d'autres lives J'ai fait des prescriptions littéraires.
Oui.
J'ai fait une prescription littéraire. C'était mon premier live d'ailleurs. Je suis très contente d'avoir pu faire ça. Pour les libraires.ca. Donc, c'était pour encourager la lecture de nos, nos libraires pour encourager la consommation locale.
Oui.
Et donc, j'ai eu beaucoup d'activités, toujours en Zoom, beaucoup de réunions au niveau de la culture, au niveau de plusieurs comités, plusieurs rencontres, mais ouvert au grand public comme ça, pas vraiment.
Okay.
Donc, c'est pourquoi je suis un peu fébrile, d'autant plus que je ne verrai pas nécessairement les jeunes. Il y aura une animatrice, il y aura une technique et tout, mais moi, je vais parler à mon écran et prétendre que je vois les jeunes.
Oui, et qu'il y a des jeunes qui vont te voir aussi.
Oui, les jeunes vont me voir, mais moi, je ne verrai pas qui est en train de me voir.
C'est pas important. L'essentiel est que ceux qui vont regarder te voient. Il y a ma collègue, Arlette qui a une petite question pour
j'ai
toi.
J'ai une petite question. Mandela, on le connaît sans le connaître complètement à fond. Qu'est-ce que ce livre raconte de Mandela? Qu'est-ce qu'il vient chercher?
L'histoire de Mandela est une histoire fascinante parce qu'on parle d'un homme plus grand que nature.
Ça, c'est sûr.
C'est cliché de dire ça, mais dans son cas, c'est vraiment ça.
Oui.
Qui a traversé plusieurs crises, tant au niveau personnel que de son pays, l'Afrique du Sud, mais aussi de tout un continent, mais aussi de la terre entière, parce que qui ne connaît pas l'apartheid? On a entendu parler de ségrégation, apartheid, il y a une petite nuance entre les deux qui est expliquée dans le livre.
D'accord.
Ensuite, le fait que on parle de cet homme qui a pour ses convictions et pour sa lutte contre le racisme, est allé jusqu'à faire 25 années de prison. On parle de Robben Island, mais en fait, il a fait plusieurs prisons. Mais c'est Robben Island qui est la plus documentée. À l'issue de ça, il en sort président et sous sa direction, il essaie de proposer une parole de réconciliation. Donc, c'est un grand sage. Lorsque Mandela parlait, chaque phrase était une citation. Il y a même des livres de citations de Mandela. Il parle comme si c'était des proverbes, comme si c'était des phrases qui allaient perdurer dans le temps. Donc, c'est un livre qui met en exergue la vie de Mandela dans un contexte d'Afrique du Sud, certes, mais aussi avec l'apartheid. On comprend comment ça a commencé, comment ça fait pour perdurer et jusqu'à l'abolition, parce que tout ça était légal. C'est ça. Oui. C'était légal. Donc, comment on a fait pour rendre ça illégal? Au fur et à mesure qu'on tourne les pages, pour agrémenter le récit, il y a, c'est agrémenté, mais aussi, comme en termes de complémentarité, il y a les illustrations de Patrick Nose. Patrick Nose est connu pour des illustrations historiques. C'est sa spécialité, il a gagné plusieurs prix. Comme on est au téléphone, donc je ne peux pas vous montrer.
La Fulgence a le livre.
Oui, c'est ça. Et aussi, c'est que j'ai voulu intéresser le jeune à comprendre ces notions qui sont parfois difficiles ou complexes.
C'est vrai.
Et trouver le mot juste, le ton juste pour que le jeune comprenne sans pour autant être traumatisé, mais conscientisé et avoir une opinion. Donc c'est pas moi qui dis c'est bon, c'est bien, c'est mal. Moi je raconte, voilà ce qui s'est passé.
Et d'ailleurs ça lui dit du livre, je joue tu jeune raconte Mandela.
Oui, c'est ça, je raconte, c'est vrai, Fulgence. Et donc c'est un livre qui se veut un peu poétique parce que vous savez comme moi que la poésie traduit des pensées, des émotions. Mmh. D'une manière supportable, même l'insoutenable peut être mis en poésie. C'est pas pour l'amoindrir.
Oh, ça c'est beau.
Pour pouvoir l'absorber. Donc il y a des espaces poétiques et de temps en temps, pas de manière, c'est pas à chaque page, mais de temps en temps, justement, comme Mandela est connu pour ses citations, tout au long du livre, il y a de ces citations-là de Mandela qu'on retrouve. C'est comme s'il était avec nous tout le long du livre et on l'entend parler, en fait.
Ah ben ça donne envie, en tout cas. Merci.
Ah oui, mais avant de nous quitter, est-ce que tu pourras nous lire un petit passage, une petite citation, mais bien avant ça, je vais annoncer l'événement qui vient aussi le samedi 14. Je me souviens de Mandela. Table ronde. Le 14, le samedi 14 à 20h.
D'accord.
Voilà, tout est branché. Oui, demain. Et puis, est-ce que tu sais, Joujou, il y a une murale qui vient d'être, qui sera dévoilée le lundi. Ouais, murale. Nelson Mandela, je vais en parler d'ailleurs après avoir.
Ah, tu le sauras. Ah oui, une murale.
Oui, oui, parce que Montréal a été l'une des villes de Montréal qu'il a visité après sa libération.
Oui, je sais, j'en parle dans le livre, mais je savais pas qu'il y aurait une murale lundi.
Oui, ça va dévoiler le lundi, ça va dévoiler le lundi.
Wow.
Oui.
Et c'est où?
Ça se passe à Montréal, bien sûr. Ça fait le lundi à 10h15. Ou Église Union Unie, c'est 3007 rue d'Élise, Angle Atwater.
Ah, mais c'est formidable!
Ah oui, avec en présence du maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoît Doré. Tu vois, c'est alors un petit passage d'abord de ce livre, et puis avant de nous quitter, parce que je sais que tu as envie de te reposer.
Je parlais de ces citations.
Oui.
Oui.
Et qu'il y en a dans le livre. De manière aléatoire, j'ai ouvert le livre et puis je suis tombée à la page 17.
C'est toujours les meilleures pages quand on les choisit comme ça.
Oui, c'est vrai. Hasard.
Et il n'y a pas de hasard. J'ai envie de lire parce que on parle beaucoup de Black Lives Matter, on parle de racisme, systémique, il y en a qui nient, il y en a qui disent oui. En fait, on est d'accord que qu'il y a au moins de la haine générée par la couleur de la peau. Bon. Alors, Mandela a écrit ceci. Personne n'est né avec la haine pour l'autre du fait de la couleur de sa peau ou de son origine, ou de sa religion. Les gens doivent avoir appris à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer, car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé. Nelson Mandela.
Oui.
Qui peut dire mieux que ça? Joujou Turenne, merci beaucoup à toi.
Avec plaisir. Je voulais juste vous dire que donc je vais parler du livre, je vais lire des extraits,
oui.
Mais la performance, faudra attendre. Je vous rappelle d'ailleurs que la dernière fois que je suis montée sur scène devant des vraies personnes, on en avait parlé peut-être même à l'émission, je revenais du Massa en mars.
De la Côte d'Ivoire.
Et j'avais présenté Mandela avec musique, trois musiciens multi-instrumentistes extraordinaires, avec danse, chant éclaté. Donc, il faudra attendre le retour des arts de la scène vivant pour voir ça.
On espère tous.
On va parler du livre, des mots et le plaisir que j'ai eu a travaillé avec les deux maisons d'édition, Educavision des États-Unis et Planète Rebelle du Québec à Montréal, pour mettre ce livre sur les tablettes pour les 9 ans et plus.
Mais félicitations, en tout cas.
Merci beaucoup,
Julie. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup pour ces mots échangés.
Bon événement le dimanche. Oui, c'est bien, à 11h.
Au revoir.
Oui. À 11h. Oui. Merci beaucoup. Merci.
Et merci à toi. Merci. Bye bye.
Merci,
Jojo.
Au revoir.
Alors, Fulgence, lundi?
Oui.
Avant la musique, tu avant vas la musique. Dire,
non, oui, dans le dévoilement, je vais parler de ça un peu plus tard.
Ah bah...
Après la musique, et on n'a plus le temps là. Je veux parler de ça rapidement avant d'aller à la musique.
Oui.
C'est le dévoilement de la muraille en hommage à Nelson Mandela, une initiative de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs d'ailleurs, et de l'église Union Unie. Ça va se passer où là? Ça va se passer quand d'abord?
Comme tu le disais, d'abord à la rue. Alors vas-y, quand?
Voilà, quand? C'est lundi. C'est lundi qui arrive là après-demain.
Oui.
Non, on ne pourra pas aller, on sera en train de préparer notre émission. Et dévoilement de cette nouvelle muraille, lundi 16 à 10h15.
Après les dévoiler, ça laisse le temps, ça laisse ça largement le temps d'aller la voir.
Je parle du jour du dévoilement, voilà.
Oui,
ça restera pour toujours. Allocution 10h30, dévoilement ou Église Union Unie. 3007 rue des Lilles, angle Atwater, avec le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoît Daret, et puis Michel Farkas, qui est le président du conseil d'administration de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, Charles Honte, membre du conseil d'administration de l'église Union Unie, et puis Elisabeth Andol, qui est directrice générale et artistique de MU, et Franco Égalité Artiste, qui fait partie de ces artistes qui ont fait cette murale-là. Voilà.
C'est bien, ça va être présenté officiellement. Est-ce qu'on va avoir le droit d'être là? Distanciation oblige.
Avec ton masque, bien sûr.
Non, mais le masque, moi, c'est plutôt... Le masque, c'est devenu maintenant un incontournable pour l'instant.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est la distanciation qu'on nous demande de 2 mètres.
Ils vont respecter, ça, c'est clair.
Ça fait moins de monde. Ça fait un
Il n'y aura pas tout un monde là-bas. Non. C'est pas, oui. On n'a pas besoin de la prison de toute la
on
vie.
On aura le temps de passer voir ça.
De temps en temps, passer voir ça. De temps en temps. Voilà, un peu plus tard.
Quelle est la chanson que tu vas nous offrir après?
Cette pièce musicale qui vient maintenant?
Ben, je sais pas, c'est un...
Tu
le dévoiles avant?
Judith Mowat, oui, une ancienne qui a accompagné aussi Bob Marley dans un mec qui fait aussi son solo à elle. Knocking on Even Door, une pièce reprise de... Écoutez-moi ça, Knocking on Even Door.
Knock, knock, knocking on a heaven's door. Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Alors avant de rejoindre notre invité de la deuxième demi-heure, la docteure Claudel Pétrin Desrosiers, on va partir en musique avec Alicia Deschênes qui nous chante « Les pieds dans le vide ».
Et plonger tête première. On pourrait s'enfuir et traverser les frontières, dépasser les deux d'hier et avancer sans trop penser. Le pied dans le vide, le regard vers l'avant et y croire. Nos repères, on pourrait bâtir peu à peu notre univers, un dessin dont on serait fier et avancer.
Alors, docteur Claudel Pétrin Desrosiers, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Gros sujet que nous avons là. J'espère qu'on va avoir assez de temps pour en parler. Donc, on vous reçoit pour parler de la façon de traiter les enjeux de santé face au projet de complexe de liquéfaction pardon, de gaz naturel à Saguenay. Oui. Alors, on parle un peu, on met déjà en compte le projet. Qu'est-ce que c'est ? Vous nous en parlez un petit peu avant qu'on parle des enjeux qui sont autour.
Oui, ben en fait, c'est un projet qui veut transformer le gaz naturel. C'est un projet qui se découle en quelques étapes, là. En ce moment, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, ce qu'on appelle couramment le BAP, oui, évalue la construction de cette usine-là à Saguenay, qui engendrerait possiblement le déplacement de gros méthaniers, de gros bateaux dans le fjord, là, à peu près une fois par jour, pour transporter ce gaz naturel qui serait sous forme liquide vers les marchés internationaux. Le projet, par contre, il faut comprendre que le gaz vient de quelque part. Donc, en ce moment, sur la table, la proposition, c'est que le gaz soit issu de la fracturation hydraulique, on aura la chance d'en parler, mais d'un processus où on brise la terre pour en extraire les ressources en Alberta, en Colombie-Britannique.
Alors, j'ai envie de vous couper, de vous demander, mais qu'est-ce que c'est la fracturation hydraulique?
Oui, ben la fracturation hydraulique, c'est un peu complexe. C'est une méthode non conventionnelle pour trouver du gaz naturel puis éventuellement en faire un combustible qu'on peut utiliser. Généralement, c'est un processus assez complexe qui demande qu'on injecte en grande quantité de l'eau, du sable et beaucoup de produits toxiques dans la roche, dans le sol, pour en extraire ce gaz naturel.
Alors, il semblerait que c'est ce moyen-là qui oui. cause problème.
Exactement.
C'est ça?
Oui, ben, en fait, c'est ça. C'est dans les produits utilisés, on en a recensé plus de 1000. Et la majorité, en fait, ceux qu'on est capable d'identifier, c'est des produits très toxiques qui sont classés un peu comme des cancérogènes. Donc, des agents qui peuvent être associés à des cancers.
C'est ce que j'ai lu.
C'est un problème en soi. Puis, en fait, les compagnies protègent tristement ben, par des brevets la composition des produits. Fait qu'on n'a même pas une vraie photo de ce qui contient ces produits toxiques-là, ce qui rend la chose encore plus complexe.
Parce que j'ai lu que c'était aussi c'était comme un secret industriel, puis qu'il y avait quand même des chercheurs qui avaient réussi à identifier plus de 1000 produits chimiques, c'est ça?
Oui, mais c'est ça. C'est comme si on voyait juste la pointe de l'iceberg. On en voit une partie, la partie qu'on voit, c'est pas bon pour la santé. Donc, on peut imaginer que le reste, c'est pas mieux non plus.
Parce que j'ai lu aussi qu'il y avait des risques de contamination de l'air, de l'eau et oui. des sols.
Exact. Donc, le processus.
C'est grave.
Le processus en tant que tel est dangereux. On établit aussi que c'est même dangereux pour les travailleurs, là, ceux qui œuvrent dans le milieu en tant que tel. Et ce que les études ont démontré, ça a été fait pour tous les États-Unis. Puis, juste pour remettre en contexte, la fracturation hydraulique, c'est un processus qui est relativement nouveau. Ça fait quelques années, possiblement 15-20 ans qu'on l'utilise. Donc, les études sont encore...
Sont encore toutes jeunes?
Exact. Mais ce qu'on remarque dans les communautés aux États-Unis, surtout, ça a été étudié, c'est que les communautés autour des zones de fracturation hydraulique souffrent beaucoup. On voit des problèmes de fertilité, on voit certains types de cancers, dont la leucémie chez les enfants.
Des problèmes respiratoires, j'ai vu, otorhino-laryngologiste.
Oui, c'est possiblement qu'une petite partie là, de ce qu'on peut analyser pour l'instant. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en fait, l'Association de santé publique américaine a dit il y a quelques années, il faut arrêter tous les nouveaux projets de fracturation hydraulique, il y a trop de risques pour la santé. Et donc, le projet, si on revient au projet GNL, le projet de construire un complexe pour liquifier le gaz au Saguenay, qui est présentement en étude, ce gaz-là viendrait d'un processus de fracturation hydraulique et au Québec, ça fait quelques années déjà qu'on a dit qu'on n'en voulait pas de la fracturation hydraulique. Donc, nous, c'est un des enjeux qu'on soulève. Là, pourquoi on trouverait ça acceptable si ça se passe chez nos voisins, mais pas chez nous?
Oui.
Et ça, pour nous, c'est un non-sens et le projet devrait pas utiliser, son gaz dans un processus qui est aussi nocif pour la santé.
Parce que vous avez dit, vous, qu'il y avait aujourd'hui que vous tiriez le signal d'alarme parce que l'analyse des impacts psychosociaux et sanitaires du projet est incomplète. C'est ça?
Exact. Oui, ben en fait, le bureau au Québec, on s'est doté du bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, c'est des espèces de tables de consultation où on donne des mandats à des gens de faire des évaluations pour les grands projets qui toucheraient l'environnement. Et donc, on fait ça au Québec. Le BAP, là, le bureau d'audience publique, traite de multitudes de dossiers. Et présentement, le projet GNL Québec est à l'étude. Et dans ces analyses-là qui doivent être faites, normalement, et c'est demandé dans les directives du ministère, il doit y avoir une analyse des impacts psychosociaux du projet. Et nous, dans notre documentation, dans la recherche qu'on a fait, on a découvert que cette analyse-là n'avait pas été faite complètement pour le projet GNL. Et ça nous cause un problème parce qu'on sait que l'analyse sera pas positive. Là, les impacts psychosociaux sont déjà ressentis, vont se faire ressentir encore plus si le projet se met en branle et finit par exister. Mais pour nous, le processus en tant que tel est pas complet et ça doit être réglé de façon urgente.
Parce que pour l'instant, là, tous les professionnels de la santé qui lancent le cri d'alarme, qui disent attention, dans l'instant, c'est stoppé, c'est ça ou pas?
Ben, pour l'instant, non, on n'a pas encore eu de retour de la commission. Nous, on demande que la commission, en fait, mandate le ministère de la Santé et des Services sociaux ou les directions de santé publique de leur fournir les documents pour compléter l'analyse. On comprend qu'on est dans une situation exceptionnelle avec la COVID et que le ministère est surchargé de tous bords, tous côtés. Par contre, la solution qu'on met sur la table, c'est de dire, ben, on hâte le processus, donc on met le processus en pause, on retarde la date à laquelle le rapport est prévu pour donner le temps au ministère de fournir les réponses nécessaires. C'est comme un peu un report de la démarche.
D'accord.
On attend encore des nouvelles, on n'a pas eu de réponse du BAT, mais c'est la demande qu'on formule cette semaine qui nous apparaît essentielle si on veut respecter nos propres lois qu'on a votées au Québec.
Parce que le gouvernement Trudeau et le gouvernement Legault avaient manifesté leur appui à ce projet.
Oui, le gouvernement Legault, de façon très, très, très ouverte, le dit régulièrement qu'ils ont un penchant très favorable au nom du développement économique de la région. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce n'est pas tous les élus qui pensent comme ça. Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreau, qui est dans la région, s'est prononcé à plusieurs reprises contre le projet en disant « c'est pas un projet d'avenir, c'est pas un projet porteur, c'est pas de ça dont la région a besoin ». Parce que faut aussi comprendre que bon, c'est super complexe le marché des énergies en ce moment, mais il n'y a pas une très grande attirance pour le type de gaz que ce complexe-là va fournir. Les investisseurs ne sont pas vraiment intéressés, sont seulement même si le projet est financièrement viable. Et disons qu'on construit l'usine, mais l'usine va être en opération peut-être quelques années seulement, et dans 25 ans, on va se retrouver avec un complexe qui défigure le territoire, qu'il va falloir décontaminer, et ça va donner à la région un lourd passé environnemental, ce qui n'est pas souhaitable. Et donc, tu sais, si on regarde là, un petit peu étape par étape, à la fois avant même que le projet arrive, puis toutes les étapes du projet, de la fracturation hydraulique au gazoduc, au pipeline qui va être construit pour transporter le gaz, à la construction de l'usine, au transport du gaz dans le fjord du Saguenay, qui va avoir des impacts sur l'industrie touristique, sur les bélugas, et potentiellement l'impact même du projet qui risque d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a rien dans tout ça qui, pour nous, a un sens. Et le projet devrait juste pas exister.
Oui, on ne sait pas les risques qu'il y a aussi en faisant tous ces travaux, en faisant tout
exact.
Ça. La terre bouge aussi, hein, donc il y a des incertitudes et des choses qui peuvent arriver.
À toutes les étapes, il y a des risques en effet, puis les risques sont documentés. Il y a des risques d'explosion, il y a des risques d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui vont contribuer au changement climatique, qui sont déjà un problème en soi. À un moment donné, il faut aligner nos comptes et dire que ce projet-là, c'est certainement pas un projet porteur d'avenir.
Parce que là, j'avais lu que le GNL lui affirmait que le gaz naturel, quand il est liquéfié, permettait de lutter contre la crise climatique.
Oui, ben ça, c'est des vérités un peu transformées, si on peut dire. L'Union européenne, juste cette semaine, vient d'interdire le concept de gaz naturel comme une énergie de transition. Donc, l'Union européenne n'avait même pas envisagé le gaz naturel comme étant une solution à la crise climatique. Et il y a plusieurs scientifiques qui ont refait un peu les calculs que le promoteur avait fait pour en déduire que les émissions de gaz à effet de serre du projet seraient grandement supérieures à ce que le promoteur du projet met de l'avant. Et donc, en ce moment, c'est comme si le promoteur dit ben l'impact ne sera pas si grand, mais il n'a pas considéré toutes les
sections. Il n'a pas vu, oui.
Il n'a pas vraiment fait une analyse complète. Il y a du débat sur le taux de certaines émissions, mais ce qu'on en sait, c'est que le projet a un haut potentiel de relâcher un gaz qui s'appelle le méthane, qui est encore pire que le carbone. Qui est comme
que les gens qui habitent autour pourraient retrouver chez eux, quoi.
Mais en fait, le gaz irait dans l'atmosphère puis va augmenter le réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment un impact un peu plus mondial, si on peut le dire.
D'accord.
Mais les gens de la communauté, ils vont vivre des impacts, des gros bateaux qui vont passer dans le fjord, des camions, de la pollution probablement sonore associée. Donc, ils vont pas être épargnés non plus.
Ben oui, parce que la pollution atmosphérique, c'est aussi votre dada, enfin un intérêt
oui.
là-dessus complet.
Oui, bien ça, à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, on traite de beaucoup de dossiers, mais la pollution atmosphérique, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On le sait que c'est environ 4000 Québécois par année qui décèdent de la pollution atmosphérique. Donc, en fait, quand on présente un projet qui a le potentiel d'augmenter la pollution atmosphérique, pour nous, ça a aussi très peu de sens au nom de notre santé.
Ben oui, parce que je lis d'abord que l'Organisation mondiale de la santé trouve qu'il s'agit de la plus grande menace du 21e siècle, déjà.
Oui.
Et d'autre part, qu'au Canada, la pollution peut être responsable de 14 000 décès par an au Québec. 20 000 personnes en mourront au cours des 50 prochaines années. Dis donc, ça fait peur.
Oui, ben en fait, les chiffres sont des estimés. Là, la pollution, en effet, on estime c'est 14 000 décès par année au Canada. Les changements climatiques en soi, donc, qui ont les mêmes causes que la pollution, eux risquent de causer 20 000 décès au Québec, là, notamment par l'augmentation de la chaleur dans nos villes. Mais c'est excessivement préoccupant et c'est pour ça que nous, en tant que médecins, on prend la parole puis on veut mettre de l'avant que ces projets-là ont un impact sur notre santé puis c'est pas un impact positif.
Donc vous êtes tous réunis, vous avez aussi été co-instigatrice de l'initiative La planète s'invite en santé. Donc est-ce que votre venue, votre avancée a du poids pour les décisions qui vont se prendre là?
Ben, on le souhaite, on le sait.
Est-ce que vous êtes suffisamment écouté?
Suffisamment, je ne sais pas, mais je pense qu'on est écouté quand même. Les médecins, les professionnels de la santé, on est dans une position excessivement privilégiée. Souvent, on est écouté, on est dans une position de confiance. Et on sait que la santé, c'est porteur. Et maintenant, plus que jamais, ça fait plusieurs mois qu'on a pratiquement mis l'économie en mode ralenti pour notre santé. Et donc, on sait que c'est quelque chose de porteur qui unifie. D'accord. Et nous, finalement, ben, tout ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre en santé et avoir un
bien sûr
qui est optimal.
Avoir un avenir et voir les enfants grandir dans cet avenir aussi.
Exact.
La QME, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, compte à peu près combien de médecins?
On a des centaines de membres. C'est une association qui existe au Canada depuis près de 30 ans et très active au Québec depuis les dernières années. On a des membres qui s'intitulent de différentes façons, mais je peux vous dire qu'on grandit vraiment rapidement. C'est ainsi parce qu'il y a un intérêt grandissant envers l'impact de notre environnement sur notre santé.
Bah écoutez, je comprends, puis je vous souhaite le meilleur. Mais en tout cas, quand j'ai su que vous veniez en entrevue et que j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait, j'avoue que ça m'a un peu fait peur. On connaît pas à ce point-là les risques qu'il y a sur la pollution, sur la santé, sur tout
ça. Vous avez complètement raison. C'est le lien entre l'environnement et la santé, ça se fait de façon courante et nous on le voit un peu comme notre devoir et responsabilité d'en discuter. Puis c'est pour ça que ça nous fait toujours plaisir d'être dans des émissions de radio comme la vôtre, parce que ça nous permet de rejoindre le public, ça nous permet de conscientiser, d'éduquer. Puis après, ben si c'est des gens qui comme les auditeurs, comme vous, qui après ont des poids au niveau des décisions politiques, qui peuvent voter, qui peuvent parler à d'autres gens en position de pouvoir, nous, on se donne ce mandat-là de partager un petit peu les connaissances qu'on a.
Formidable, en tout cas j'ai envie de dire, mais cette manière, quand vous avez parlé, une dernière question, vous avez parlé aussi des impacts psychologiques, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme impact psychologique?
On a une professeure de l'UQAM hier à notre événement en ligne là, qui mimait un petit peu le processus d'évaluation, qui nous rappelait qu'au niveau de la communauté, des gros projets comme GNL peuvent être très, très, très divisifs. Puis on le voit, il y a une augmentation un petit peu des conflits, des fois entre les voisins, au sein des familles. Il y a une division sociale, il y a une perte de cohésion dans la communauté. Et ça peut être néfaste à long terme. Et ça doit être considéré quand on analyse des projets comme ça. Et ça n'a pas été fait.
D'accord, parce que quand le projet a été décidé, est-ce qu'il y a eu une demande qui a été faite sur l'endroit, quoi, si les travaux pouvaient se faire ou pas?
Ben, c'est ça, en ce moment, le projet n'a toujours pas le OK pour aller de l'avant. C'est pour ça qu'il est en audience auprès du Bureau d'audience publique de l'environnement. Le rapport devrait être rendu au mois de janvier. Après, le ministre de l'Environnement va décider oui ou non s'il cautionne, s'il dit on y va de l'avant. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que le rapport sera incomplet parce que pour l'instant, à moins que le tir soit corrigé, parce qu'il n'y aura aucune mention des impacts psychosociaux et sanitaires du projet. Puis on sait déjà, en plus, que le gouvernement a un penchant favorable. Donc, on a bien hâte de voir ce rapport-là, mais pour être certain que la grande majorité de la société civile et on l'a vu, une grande mobilisation de plusieurs groupes environnementaux, mais même des citoyens qui disent que ce projet-là, on n'en veut pas. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer au fil des prochaines semaines.
Est-ce que suite à la plateforme qui s'est passée, ça s'est passé hier, c'est ça?
Oui, ben, hier, on, c'est fait, hier soir, on a fait un événement virtuel où on a réuni trois organisations et deux députés. On espère que, notamment, que les députés vont être capables de transmettre ou faire des interventions en chambre à l'Assemblée nationale. Mais nous, on va continuer d'être actifs au niveau des médias et des médias sociaux pour continuer à porter le message qu'on trouve très important.
Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de monde.
Oui, on était très contents. Ça nous a permis de présenter ces demandes-là et d'en parler avec des journalistes, mais aussi d'avoir des citoyens qui assistent à l'événement et qui vraiment prennent conscience des impacts sur la santé du projet.
Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions puis de m'avoir, en ce qui me concerne, éclairé là-dessus parce que oui, j'en avais entendu parler. Oui, je connaissais, mais j'étais pas au fait de savoir tout ce qu'il y a autour, quoi. J'avais pas mis l'environnement, oui, la santé, non. Pas pourquoi, parce que la santé peut suivre l'environnement tout à fait. Au contraire.
Mais ça m'a fait plaisir d'être vivant ce soir.
Merci, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine, j'ai envie de vous dire à une prochaine fois avec des très bonnes nouvelles.
On le souhaite.
Merci beaucoup.
Au revoir. Maintenant.
Au revoir. Alors là, on va partir en chanson avec Alyosha qui va nous chanter, le bel Alyosha qui va nous chanter « C'est tout, c'est rien ».
Console-moi, tout paraît si beau, c'est facile, on est dense. Tranquillement, je repars à zéro, inutile de t'attendre. Tu passes, c'est tout. C'est rien. Tu me fais tout oublier. Tu frôles, tu ne touches rien. Mais tu me fais tout oublier. Tout oublier. Toi, tout paraît si beau, si facile, une danse. Tranquillement, je repars à zéro, inutile de t'attendre. Tu passes, c'est tout, c'est rien. Tu me fais tout oublier. Tu frôles, tu ne touches rien. Mais tu me fais tout oublier. Tout oublier.
Voilà, nous arrivons dans les dernières minutes de cette émission, Regards croisés. J'avoue que c'est pas souvent que j'ai affaire à des sujets aussi importants. Et c'était bien de le savoir, c'était détaillé.
Mais je dois avouer
que depuis hier, depuis quelques jours, en train de lire là-dessus pour préparer l'émission, pour préparer l'entrevue, je me suis fait peur un petit peu.
Pourquoi ?
J'ai lu des choses. Je me suis quand même, c'est grave. On pourrait nos dirigeants de partout, je ne parle pas que du Canada, c'est quand même, je pourrais quand même essayer de prendre soin de nous et de notre devenir et de celui de nos enfants et nos petits-enfants. Ouais, voilà, mais... c'était mon mot de la fin. Ouh, vendredi 13, youkou, c'est la gaieté.
Mais tu sais que les dirigeants, oui, bon, moi j'aimerais pas être là, le place.
Mais chacun de nous peut le faire aussi.
Ah oui, j'ai pas dit qu'ils sont pas, ils n'ont pas le pouvoir, mais c'est pas, comme on le sait tous, hein, ils sont tous, ils ont les mains liées quelquefois. Ouais.
Ou enfin.
Pas les grandes industries, les bien sûr. Oui, il peut prendre des
décisions. Ils ont un gros portefeuille, ils ont qu'à. Tu m'as compris ?
C'est pas si facile que ça. Voilà. Les oppositions, les opposants, oui. Les critiques. Mais quand ils sont au pouvoir, eux-mêmes ne peuvent pas faire mieux. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Quoi. C'est pas facile. Ça. Parce que le monde, il fonctionne autrement. Voilà. C'est ça. C'est...
Enfin bon, voilà quoi. Faut quand même faire attention. Il faut en prendre conscience, faut se conscientiser de ça.
Ça fait partie de nos sujets de prédilection.
C'est,
voilà.
Oui,
ça,
on en parle c'est souvent, quelque là. Chose. Mmh. C'est quelque chose de super important. Donc, on va en reparler régulièrement parce qu'on a peut-être besoin de se le répéter, de se l'entendre dire de plusieurs façons différentes. Et ça sera avec plaisir qu'on va remplir vos oreilles de ça.
Avec nos apports, l'apport de chacun de nous.
Bien sûr.
Voilà, là où je veux en venir. On bien en parle sûr. Souvent, toi et moi, hors honte d'ailleurs, de toutes les façons. Donc,
c'est vrai.
Faisons le petit geste et puis c'est ce qui fait qu'on pourrait arriver peut-être. N'attendons pas à ce que les gouvernements seulement... Oui, ils ont le pouvoir, mais ils ont les mains liées aussi. Hein.
Oui, enfin bref, agissons.
Mmh. Agissons tous ensemble. On dit merci agissons. À nos invités.
Ben oui, mais comme Mandela l'aurait dit, voilà, tous et tous ensemble.
Voilà, tous et tous ensemble. Et puis elle sera le dimanche, là, en ligne. N'allez pas, n'oubliez pas, allez-y simplement du Salon du Livre de Montréal.com/événement/. Joute une raconte Mandela, vous serez puis, en direct avec elle.
Il ne faut pas oublier lundi, la découverte de la.
Le dévoilement de la muraille en hommage à Nelson Mandela. Ne ratez
redonne
pas
l'adresse,
ça.
S'il te plaît.
Oh, Église Union Unie. Je sais. 3007 rue des Lilles, Angle Atwater. En présence, bien sûr, de Benoît Doré, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est intéressant, ça. Voilà.
Oui. Mmh. Et puis après, on va y passer assez régulièrement pour voir ce que c'est, comment ça a été fait. Puis,
une grande murale.
Juste pour l'apaisement que ça va pouvoir nous donner.
Je pense bien que oui.
Puis tout autour, on va pouvoir lire le livre et retrouver les phrases de ce grand homme. Merci au docteur Claudel Pétrin-Desrosiers, merci Maurice Bolduc et merci à vous toutes et tous.
Merci à oui. À
merci Fulgence.
Merci à toi aussi et puis
bon week-end à tous.
Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine.
Merci
à
Maurice.
Lundi.
Prenez soin de votre fin de semaine et de vos minutes.
À lundi.